RFI Radio France Internationale, il est 6h à Paris, 5h en temps universel.
Arnaud Pontus.
C'est RFI Matin et le journal avec Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Les riches s'enrichissent et de plus en plus vite.
C'est ce qui ressort du rapport de l'ONG Oxfam, publié alors que débute aujourd'hui le Forum économique de Davos. On en parle dès le début de cette édition. On parle aussi de la Syrie, où le chef des forces kurdes confirme avoir accepté un accord de cessez-le-feu avec l'armée du pays après plusieurs jours de combat. On sera ensuite en Haïti, où la police nationale intensifie ses opérations contre les gangs armés à Port-au-Prince. Et puis l'actualité, c'est aussi évidemment le sacre des Sénégalais qui remportent la deuxième CAN de leur histoire au détriment des Marocains et au terme d'une finale pour le moins rocambolesque.
Les 12 milliardaires les plus riches du monde possèdent plus de richesses que la moitié la plus pauvre de la planète.
C'est ce que nous apprend l'ONG Oxfam dans son rapport publié, c'est la tradition, juste avant le forum économique de Davos. Il s'ouvre ce lundi dans la ville suisse. Les riches s'enrichissent et de plus en plus rapidement, puisqu'en 2025, la fortune des milliardaires a augmenté 3 fois plus vite que la moyenne annuelle de ces 5 dernières années. Et ça se fait au détriment de la démocratie. Désormais, plus de la moitié des grands médias dans le monde sont détenus par des milliardaires. C'est ce que nous dit Oxfam, Charlotte Cosset.
Une mainmise sur un contre-pouvoir qui a des implications politiques. Un phénomène prégnant aux États-Unis, par exemple, explique Leïla Abdelkay Yacoub, responsable plaidoyer d'Oxfam.
On l'a vu d'abord avec l'implication des milliardaires et notamment celle d'Elon Musk dans les élections américaines. On a estimé qu'un dollar sur 6 dépensé par les candidats et partis politiques en 2024 aux États-Unis provient de donateurs milliardaires. On s'est aussi rendu compte qu'aux États-Unis, une politique qui bénéficie du soutien des plus riches a 45% de chances d'être adoptée, alors que quand ici oppose, elle n'en a plus que 18%. C'est lié à tout un tas de dispositions, mais aussi à l'accaparement des médias et des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle par les milliardaires.
Une mainmise sur les outils de communication qui favorisent la répression dans certains États, note encore l'ONG. Exemple phare cette année pour Oxfam, la gestion des manifestations au Kenya.
Face à ces réactions de population épuisée et en colère face à ces inégalités, ils ont utilisé là par exemple X, anciennement Twitter, pour traquer, punir, enlever, torturer des détracteurs et détractrices du gouvernement. On voit bien qu'il y a des enjeux importants sur la manière dont peuvent être utilisés les réseaux sociaux en termes donc de protection de données, mais aussi en termes d'utilisation du pouvoir par les personnes au gouvernement.
Autre exemple, l'invisibilisation des minorités. Selon le rapport, en Amérique latine, seuls 3% des personnes qui apparaissent dans les médias appartiennent à des groupes autochtones.
Et ce rapport d'Oxfam est, on le disait, publié alors que s'ouvre ce lundi le forum économique de Davos. C'est jusqu'à vendredi, on attend sur place de nombreux dirigeants venus du monde entier. Le président américain Donald Trump fera le déplacement. Il est attendu à la tribune mercredi.
En Syrie, c'est pour, dit-il, éviter une guerre civile que le chef des forces démocratiques syriennes, à majorité kurde, annonce le retrait de ses troupes dans 2 régions.
Celle de Raqqa et de Deir ez-Zor, des régions jusqu'ici sous contrôle kurde dans le nord et l'est du pays, mais où l'armée syrienne a mené une offensive ces derniers jours, s'emparant de plusieurs villes. Après de nouveaux combats hier, un accord de cessez-le-feu a finalement été conclu. Alors on attend encore tous les détails, mais on sait déjà que le texte prévoit notamment l'intégration de ces forces démocratiques syriennes et des forces de sécurité kurdes dans les ministères syriens de la défense et de l'environnement. Reportage de notre correspondante Manon Chaplin.
C'est dans la sidération qu'hier Tabqa s'est réveillée au bruit sourd des tirs et des chars de l'armée. Sous les acclamations des habitants, les soldats défilent sur leurs blindés. Osman vient de se réveiller.
Je me suis couché à 3h du matin et quand je suis sorti, la ville était libérée. On était vraiment heureux. Ils nous traitaient mal.
Sur la place centrale, la foule accourt, les prisons sont libérées. Ahmad regarde de loin la cellule où il a un temps été incarcéré.
Vous voulez des détails sur la prison ? Les gardiens étaient des cochons. Le moindre mot contre eux, on se faisait frapper avec un taser, puis mettre dans une cellule individuelle.
La prise de la ville par les forces gouvernementales ne s'est pas faite sans heurts. 4 civils se sont fait tuer par des tirs de sniper. Moussa regarde les yeux remplis de larmes, le cadavre de son fils gisant sur le sol.
Il était vraiment innocent.
Un peu plus loin, sur le rond-point d'Al-Tarwa, des dizaines d'habitants tirent sur une corde, font s'éclater la statue d'une combattante kurde sur le sol. Enfin, vers 17h, les blindés de l'armée entrent dans Raqqa. Quelques combats, puis partout des cris de joie. La ville est à son tour récupérée par les forces gouvernementales. On annonce un cessez-le-feu, puis un accord. Après une dizaine de jours de combats, le nord-est syrien devrait être finalement intégré à l'État. Manon Chaplin, à Raqqa, RFI.
Historique et riche en rebondissements, diront certains.
Chaotique et à oublier, répondront les autres. La finale de la CAN n'aura laissé personne indifférent. C'était hier soir. Le Sénégal a battu l'hôte marocain 1-0 après les prolongations et après surtout de longues minutes de désordre. Un but sénégalais refusé, puis un pénalty litigieux accordé aux Marocains dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Les Lions de la Teranga quittent alors le terrain avant d'y revenir et ils ont visiblement bien fait puisque Brahim Diaz a raté le pénalty. Prolongation, un but de Pape Gueye et la victoire donc des Sénégalais. C'est leur deuxième sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Alors oui, le match a été atypique, dirons-nous, pour ne blesser personne, mais le Sénégalais Idrissa Gana Gueye retient l'essentiel, le titre.
Ce fut compliqué, ce fut long, mais voilà, on n'a jamais abandonné, on a continué à croire en nous. Donc aujourd'hui, on est très fiers. Maintenant, on va bien profiter avec nos familles et notre peuple qui nous attend au pays.
Vous la comparez par rapport à celle du Cameroun, comment? C'est plus fort, c'est moins fort, c'est pareil?
C'est toujours aussi fort, on ne peut pas l'expliquer. Mais voilà, la première fois, c'est pas comparable, c'est vrai. Mais c'est une première aussi pour beaucoup de joueurs. Et une deuxième étoile, c'est voilà, on rentre encore un peu plus dans l'histoire du Sénégal. Ça prouve que on est toujours dans notre continuité de ce qui se fait de bien au pays. Et faut continuer comme ça. Voilà.
Et la joie d'Idrissa Gana Gueye, interrogé par Thomas de Saint-Léger.
Et après le coup de sifflet final, explosion de joie dans les rues de Dakar. On y sera évidemment dans nos prochaines éditions.
Mais ambiance beaucoup moins festive dans les rues marocaines où on espérait évidemment une victoire à domicile. Alors il va falloir maintenant tirer les bilans de cette CAN sportive, bien sûr, mais pas seulement, puisque le royaume comptait sur l'événement pour se hisser parmi les plus grandes destinations touristiques du monde, lui qui est déjà devenu en 2024 le pays le plus visité d'Afrique. À Casablanca, les hôtels sont plutôt satisfaits de la fréquentation de leur établissement en plein mois de janvier, une saison habituellement creuse. Reportage de François Mferkataji.
Il n'a quasiment pas une seconde, tant les clients défilent à la réception de cet hôtel de 29 chambres. Adam est entouré des drapeaux de tous les pays qualifiés et d'une petite coupe qui trône sur la réception.
J'ai 21 ans. Je suis réceptionné à l'hôtel Nesma. C'est un hôtel de 4 étoiles.
Il accueille des clients franco-marocains qui se sont décidés en dernière minute pour se rendre au Maroc.
C'est un bon, c'est très bon, moi, pour les gérants, les responsables de l'hôtel.
Dans son établissement, le taux d'occupation a grimpé de 35%. Quasiment toutes les chambres étaient occupées tout au long de la compétition. Certains visiteurs, comme Mamadou, franco-sénégalais, ont prolongé leur séjour.
J'étais venu donc initialement jusqu'au quart de finale et puis c'était en fonction des résultats du Sénégal, j'ai fini par prolonger jusqu'en demi.
Et lorsqu'il n'assiste pas à des matchs, il organise des voyages touristiques à travers le pays. Mamadou a visité Marrakech, Fès, Rabat et Casablanca.
Ça s'est très bien passé, donc en plus les Marocains ont l'air de très bien apprécier les Sénégalais, donc les Marocains sont accueillants et puis il y avait une bonne ambiance pour la CAN.
La CAF a annoncé que plus d'un million de billets avaient été vendus pour la compétition, un record. Hier, l'un des influenceurs les plus suivis de la planète, l'américain Aïcho Speed, a réalisé un live de près de 10 heures au Maroc qui s'est achevé au stade Moulay Abdallah de Rabat pendant la finale. Une promotion XXL pour le Royaume. François Mferkataji, Casablanca, RFI.
Et édition spéciale ce matin pour faire le bilan de cette CAN remportée par les Sénégalais.
C'est avec Andréane Mellard. Après le journal de 7h, temps universel, ce sera aussi au menu d'appel sur l'actualité avec Ron Gomez. Cette fois après le journal de 8h.
Autre rendez-vous à suivre sur notre antenne. Aujourd'hui, l'économie, ça c'est dans moins longtemps. Après le journal de 6h, l'occasion de parler de l'instrument anti-coercition. Cette arme commerciale que l'Union européenne envisage d'utiliser en réponse aux droits de douane que Donald Trump menace, lui, d'appliquer. Il veut le soutien de tout le monde alors qu'il souhaite s'emparer du Groenland, territoire semi-autonome danois. Les ambassadeurs des 27 se réuniront en urgence dans les prochains jours, possiblement jeudi.
Ça fera un an demain, Donald Trump officiellement investi pour la deuxième fois à la Maison-Blanche.
Et ça fait 3 mois que l'historien américain Mark Bray s'est exilé en Espagne avec sa femme et leurs 2 enfants. Ils ne sont pas les seuls, hein, mais ils furent parmi les premiers à avoir dû quitter les États-Unis en raison de menaces qui pesaient contre eux. Mark Bray explique avoir reçu des menaces de mort de l'extrême droite pour son travail sur l'antifascisme. Le voilà donc en Espagne, correspondance à Barcelone d'Élise Gazangel.
La décision de fuir les États-Unis a été prise en 24 heures, Menacé de mort par l'extrême droite, Mark Bray, professeur à l'université Rutgers du New Jersey, sa femme et leurs deux enfants, résident depuis octobre dernier en Espagne.
Mon adresse avait été publiée sur X, la situation politique se dégradait de plus en plus et puis notre réservation des vols pour venir ici a mystérieusement été annulée. Je me sentais de plus en plus désespéré de quitter les États-Unis.
Spécialiste de l'antifascisme, il a dédié un ouvrage à ce mouvement, désormais considéré comme terroriste par Trump.
Mais je ne regrette pas de l'avoir publié, car il s'est avéré être un ouvrage précieux pour ceux qui réfléchissent à la manière de résister à Trump et au fascisme en général. Et j'en suis fier.
Malgré l'exil, lui et sa femme, elle aussi historienne, sont inquiets.
C'est très stressant de voir ce qui se passe, mais ce serait bien plus stressant, je pense, d'être sur place, notamment parce que ma femme est latino-américaine et que les latino-américains aux États-Unis sont victimes de profilage racial et ciblés par l'ICE.
L'enseignant sait qu'il devra probablement rentrer aux États-Unis l'année prochaine. Il se prépare déjà à vivre caché pour assurer sa sécurité. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
À l'Espagne, ce bilan encore provisoire, au moins 21 morts et des dizaines de blessés après une collision entre deux trains à grande vitesse. L'un a déraillé pour venir percuter l'autre qui arrivait en face. Il y aura un second tour d'une présidentielle au Portugal. Le premier tour avait lieu hier. Le candidat de centre-gauche, António José Seguro, est arrivé en tête. Derrière lui, et c'est une première, un candidat d'extrême droite, André Ventura. En Haïti, la police nationale intensifie ses opérations contre les gangs armés qui contrôlent plus de 80% de la capitale. À Port-au-Prince, plusieurs fiefs criminels sont désormais visés, notamment ceux liés à la coalition Vive Ensemble, dirigée par Jimmy Cherizier, alias Barbecue, correspondance de Peterson Luxema.
Depuis quelques temps, des opérations sont menées dans plusieurs fiefs de gang. Le plus emblématique reste celui de Delma 6, quartier de Jimmy Cherizier, dit Barbecue. Selon la police, une attaque de drone a récemment visé l'un de ses refuges dans cette zone. Le porte-parole de l'institution policière, Franz Lerbourg, affirme que l'opération ciblée a permis à la police de détruire la maison de Barbecue et de limiter au maximum toute possibilité de retour de son groupe dans la zone. Les opérations ne se limitent pas à ce secteur. Dans plusieurs autres région contrôlée par des bandits, la police dit multiplier les interventions. Depuis plusieurs semaines, l'utilisation de drones fait désormais partie de la stratégie déployée pour frapper des groupes criminels retranchés dans ces zones difficiles d'accès. Franz Lerbourg affirme que la police mène des patrouilles sécurisées dans ces zones, ce qui n'était pas possible depuis plusieurs années. Si la police affiche sa détermination et intensifie ses attaques, la population, elle, reste dans l'attente de résultats concrets et durables dans une capitale où l'insécurité continue de peser lourdement sur le quotidien. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
En France, plusieurs centaines de personnes réunies hier dans le 20e arrondissement de Paris.
Pour rendre hommage à El Hassen Diarra, ce Mauritanien de 35 ans, mort dans la nuit du 14 au 15 janvier après un contrôle de police. Les circonstances du décès sont encore floues. Karl Pasquel, les proches de la victime et leurs nombreux soutiens dénoncent des violences policières.
Justice pour Hassen !
Justice pour Hassen !
Au pied du foyer où vivait El Hassen Diarra, ils sont nombreux à être venus lui rendre hommage. Parmi eux, Abderrahman Silla, le délégué du foyer où il vivait. Selon lui, c'est pendant que l'homme de 35 ans fumait une cigarette que la police est arrivée.
La police l'a trouvé là-bas. Les paroles sont changées, les coups sont partis. Vous avez vu toutes les vidéos, comment ils ont tabassé jusqu'à saigner.
La police affirme que El Hassen Diarra est décédé au commissariat suite à un malaise. Mais les proches n'y croient pas. Selon eux, il est décédé sur place sous les coups des policiers.
Pour nous, c'est pas vrai. Depuis le premier cri jusqu'à le dernier cri qu'il ne s'est plus crié, ça veut dire qu'il est mort. Nous, on pensait qu'il est mort ici.
Autour de la famille endeuillée, plusieurs proches de victimes de violences policières sont venus apporter leur soutien. Parmi eux, Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, mort lors d'une interpellation en 2016. Elle dénonce du racisme au sein de la police.
Comment peut-on juste mourir quand on croise la police? Et c'est pour ça qu'il y avait autant de monde aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe, ce racisme systémique qu'il y a au sein de l'institution policière.
La famille de El Hassen Diarra compte organiser un rassemblement devant le commissariat du 20e arrondissement pour réclamer que justice soit faite.
Un reportage de Karl Pasquet.
Dans le journal de Gaëtan Plenet. Merci Gaëtan et à tout à l'heure. Vous écoutez RFI Matin, votre tour du monde de l'actualité, jusqu'à 9h heure de Paris avec Andréane Mellard et l'ensemble de la rédaction. Et à la une, ce lundi 19 janvier 2026, le sacre des Lions de la Teranga au terme d'un match intense et chaotique. Les Sénégalais ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous l'avez vécu en direct sur RFI hier soir.
C'est fini, le Sénégal est champion d'Afrique. 4 ans après la première CAN, le Sénégal remporte sa deuxième CAN après cette finale absolument surréaliste.
Ouais.
1-0 après prolongation, le but de Pape Gueye. Mais alors, on a tellement de choses à vous raconter.
Et on a tellement de choses à vous raconter que nous vous proposons une édition spéciale dans 2 heures avec vous, Andréane Mellard. Bonjour, Andréane.
Bonjour, Arnaud. Oui, bah tellement de choses à se dire. Hein. Cédric a raison. Qu'en 1 heure, je ne sais pas si on va pouvoir.
Et il avait un grand chapeau, avec une petite tête dedans, des oreilles en forme de chou, et en dedans des poils tout blancs, une grosse barbe, une moustache, et de longs cheveux grisonnants, des yeux mouillés et attristés, comme on en croise de temps en temps. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo, qu'il s'achète de quoi prendre chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud. Il avait pourtant la bonne mine quand il était chef d'entreprise, vêtu d'un beau costard cravate, il n'était pas trop diplomate. À celui qui tendait la main, lui répondait, demande au voisin. Maintenant qu'il est sur le trottoir, c'est une autre histoire. Tous ceux qui furent ses semblables fusils du regard, il use de larmes et de grimaces pour le leur jeter en pleine face. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo, qu'il s'achète de quoi prendre chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud.
À le chemin d'un vieux gitan le manche à la main, qui lui vient donc au comptoir, que je montre un tour de guitare. Depuis il serpente les rues, depuis il gratte à corps perdu, sur tous les quais, c'est les trottoirs, mendiant leur petit coup à boire. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro dans le chapeau, pour un dernier petit vin chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud.
Les deux chanteurs du groupe NTM, Nique ta mère, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français.
Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, à cause de bougies de femmes de flics. Deuxième scandale en 95, dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95 200, avec Sacrifice de poulet.
Monsieur R, dont le dernier album, politiquement incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud.
Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière.
Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt.
La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous. Il y aura un procès parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ».
La chanson de Youssoufa, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort.
Les accusations sont graves, mais comme d'hab, on fait un vexé. Vrai qu'on est trop hard, et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille. Mais c'est les seuls sons hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines chantent le mal. Et dans leurs bêtises, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que des sommes. Coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale comme Monsieur R. Pas facile d'ignorer ça, pas facile d'opérer seul à la place de Rorelsan. Moi c'est clair que j'aurais le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui rêvent du nord. Mais ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort. Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Sont illégales, je fais du rap et ce temps est illégal. Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Yeah, les temps sont illégales. Je fais du rap et ce temps est illégal.
Je pense que le rap est une sous-culture, hein, d'analphabète. Mais je suis désolé, vous avez déjà entendu les paroles des rappeurs.
Depuis le temps, j'étais ce type qui vous mène à la baguette, mais parle de rap en tête et puis nous traite d'analphabète. J'ai dit que j'étais du genre à réagir sur le BPM. J'ai le temps pas la joue comme celui qui a vu le jour à Bethlehem. Une seule ligne, t'as force de le dire, où j'exprime tout mon mépris et là ça morce le délire. Des mots accusateurs pour les rappeurs, j'en retrouve 10 000. C'est vrai qu'on touche le fond chez ce bouffon de Morandini, mais sans rancune. De ma plume, je connais le tarot et la droite se déchaîne, m'affiche à la une du Figaro. Encore un article pour faire mentir le baromètre qui me confirme que certains journalistes de merde sont malhonnêtes. Nous sommes pas du même monde, l'hexagone va mal. Mais j'espère pas que mon prénom vous a subitement rappelé celui de Fofana. Et la police aboie pour que le tribunal me morde. Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort. C'est ça, mais il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Les temps sont illégales. Je fais du rap et ce que temps est illégal. Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Yeah, les temps sont illégales. Je fais du rap et ce que temps. Bien sûr qu'il y a la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Y'a de la rage dans nos propos,
mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose?
J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition.
Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose? Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Noir désir.
Éliminer, c'est cette, comment dirais-je, cette mollesse de langage qui fait qu'on parle de quelque chose sans définir exactement de quoi on parle.